Évangile selon Marc, chapitre 3. Guérison un jour de sabbat, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Et il entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi là devant tous. » Et il leur dit, est-il permis de faire du bien le jour de sabbat ou de faire du mal, de sauver la vie ou de tuer? Mais ils gardaient le silence. Et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Et les pharisiens, sortant aussitôt avec les hérodiens, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Et Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et de l'Idumée et de par-delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu les choses qu'il faisait, vinrent vers lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite nacelle fut là à sa disposition à cause de la foule, afin qu'elle ne le pressât pas. Car il en guérit beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui afin de le toucher. Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et s'écriaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur défendait très expressément de le faire connaître.
Lecture de l'étude. De nouveau Jésus entra un jour de sabbat dans la synagogue, où il trouva un homme qui avait la main desséchée. Les assistants l'observaient pour voir s'il le guérirait, afin de l'accuser. Connaissant leurs pensées, Jésus ordonna à l'infirme de se lever devant tous et leur dit, « Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal, de sauver la vie ou de tuer ?» Mis à l'épreuve par ces paroles, ils ne répondirent rien. Leur conscience ne leur permettait pas de dire qu'il ne fallait pas faire du bien le jour du sabbat, car, s'ils n'en convenaient pas, ils savaient néanmoins que Dieu les visitait et que l'amour ne pouvait être condamné par la loi s'ils délivraient l'homme de ses malheurs ce jour-là. Mais leur haine pour Jésus ne leur permettait pas de l'approuver, tellement ils cherchaient une occasion pour le faire mourir. La perfection de la vie du Seigneur leur ôtait toute occasion de le prendre en défaut. Ils ne trouvaient de prétexte pour le condamner que dans l'exercice de l'amour divin, amour qui ne pouvait s'exercer librement dans le cercle restreint des ordonnances sous lesquelles l'homme demeurait dans son misérable état. L'homme ne peut supporter la grâce parce qu'elle le met de côté, tandis que les ordonnances le considèrent comme capable de les accomplir. Le pécheur préfère demeurer sous la loi, et par conséquent sous la condamnation, plutôt que d'accepter la grâce qui le délivre de la condamnation, en lui montrant qu'un autre a dû prendre sa place sous le jugement pour l'en délivrer. Devant le silence de ses observateurs, Jésus fut rempli d'indignation. Et les ayant regardés alentour avec colère, est-il dit. Étant attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut rétablie. La colère fait partie des perfections de la nature divine. C'est l'indignation que Dieu éprouve en présence du péché, si repoussant pour sa nature. On comprend aisément les sentiments de Jésus devant l'endurcissement de ces hommes, sans cœur pour leurs semblables dans la souffrance, et plus insensibles encore à l'amour qui venait les délivrer. Combien Jésus a dû souffrir en voyant son amour méprisé et repoussé par l'orgueil et l'égoïsme de ceux qui avaient pris, au milieu du peuple, la place de berger, mais de berger mercenaire qui ne se mettait pas en souci des brebis. Ézéchiel 34, versets 1 à 6.
Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, « Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces pasteurs, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs, ne doivent-ils pas paître le troupeau? Ou manger la graisse et vous vous habillez de la laine? Vous égorgez ce qui est engraissé ou ne paissez pas le troupeau? vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, et vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteur, et elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs, et elles ont été dispersées. Mes brebis ont erré dans toutes les montagnes et sur toute haute colline, et mes brebis ont été dispersées sur toute la face du pays, et il n'y a eu personne qui les ait recherchées, personne qui se soit enquis d'elles. »
Voyant le miracle accompli, les Hérodiens et les Pharisiens, deux sectes ennemies entre elles, sortent aussitôt et tiennent conseil pour faire mourir Jésus. Sans se préoccuper des intentions de ces méchants, le divin serviteur se retire avec ses disciples afin de poursuivre son œuvre ailleurs, semblable à un cours d'eau qui se détourne et prend une autre direction lorsqu'il trouve un obstacle sur son passage. Jésus se dirige vers la mer où une grande multitude le suit, venant de toutes les contrées voisines, de l'autre côté du Jourdain, et même de Tyr et de Sidon, villes païennes situées sur les côtes de la mer Méditerranée. L'incrédulité des chefs du peuple laisse subsister les besoins chez les foules qui trouvent en Jésus l'amour et la puissance nécessaires pour y répondre. Pressé par la multitude, Jésus dut demander à ses disciples qui ont mis une nacelle à sa disposition, car ceux qui souffraient de quelque infirmité se jetaient sur lui afin de le toucher. Combien Jésus est admirable dans son abaissement volontaire. Il est Dieu au milieu de ses créatures, devenu homme pour les servir. Mais il agit comme un homme doit le faire pour se préserver d'une foule qui le presse. Il ne se protège pas par sa puissance divine. Il demande une nacelle, comme s'il en avait besoin pour être en sûreté. La réalisation parfaite de son humanité gagne le cœur, l'attire. Cet homme était Dieu manifesté en chair, débonnaire et humble de cœur, vers lequel les affligés ne craignaient pas de se jeter pour obtenir la guérison qu'ils désiraient. Quelle grâce merveilleuse ! Mais combien est coupable celui qui la méprise ? Les démons, voyant Jésus, se jetaient devant lui, confessant qu'il était fils de Dieu. Ici encore, le Seigneur leur défend expressément de le faire connaître. Ils ne voulaient pas recevoir le témoignage des démons. Les caractères divins qu'il manifestait devaient suffire aux hommes pour qu'ils crussent en lui. Le refus de Jésus de recevoir le témoignage des démons nous enseigne clairement que le croyant ne doit rien avoir à faire avec ces êtres-là. Il est utile de le rappeler, car dans l'état actuel de la chrétienté, où l'on abandonne de plus en plus la vérité de Dieu, il est effrayant de voir avec quelle facilité les hommes se mettent en relation avec les mauvais esprits par le magnétisme, le spiritisme, l'hypnotisme, dans des buts divers, et surtout pour obtenir des choses que Dieu n'a pas mises à la disposition de ses créatures. Rappelons-nous que, quels que soient les résultats obtenus, Dieu est en dehors de tout cela, et tous les effets qui peuvent être produits sont dus à la puissance de Satan et par conséquent mensongers. Cette puissance satanique, sous laquelle les hommes se placent toujours plus, pour la plupart inconsciemment, les étreindra peu à peu jusqu'au jour où elle aura atteint son plein développement en jugement sur ceux qui n'auront pas cru la vérité, alors que Dieu enverra une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice. De Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Appel des 12, versets 13 à 19.
Lecture de la parole. Et il monte sur une montagne, et il appelle ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui, et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon, Pierre, et Jacques le fils de Zébédée, et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanergès, ce qui est fils de tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui aussi le livra.
Lecture de l'étude. Jusqu'ici, Jésus avait été suivi par un certain nombre de disciples dont il avait appelé plusieurs personnellement, Simon, André et les fils de Zébédée. Maintenant, il en appelle 12 pour être avec lui. Note en bas de page, le nombre 12 présente la perfection et la plénitude dans l'administration confiée à l'homme, 12 tribus, 12 apôtres, 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, etc. C'est le nombre le plus divisible. Jésus voulait des compagnons dans son service afin de prêcher, de guérir et de chasser les démons. La prédication a la première place dans l'activité du Seigneur. De tous les dons du commencement, c'est celui qui subsiste aujourd'hui, parce que Dieu accomplit son œuvre par la parole seule. Nous avons déjà vu au premier chapitre que le Seigneur seul a autorité pour appeler et douer ceux qu'il veut employer à son service. Au verset 13, il est dit qu'il appela ceux qu'il voulait. Ce ne sont pas ceux qui veulent ou ceux qui sont désignés par une autre autorité qui peuvent être consacrés au service du Seigneur. Jésus manifeste son autorité en changeant les noms de quelques-uns d'entre eux. Simon fut surnommé Pierre et Jean Boanergès. Il le fit, sans doute, en rapport avec la connaissance qu'il avait de leur caractère, car le nom exprime ce qu'est la personne qui le porte. Le nom de Pierre est devenu un nom général qui désigne tous les croyants, car chacun d'eux est une pierre de l'édifice fondée sur le roc qui est Christ lui-même, confessé comme fils du Dieu vivant, ainsi que Jésus le dit à Pierre en Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es pierre ou une pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée. » Jésus jugé par ses proches et les scribes, versets 20 à 30.
Lecture de la parole. Et ils viennent à la maison, et la foule s'assemble de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « il a Béelzébul », et, par le chef des démons, il chasse les démons. Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles « comment Satan peut-il chasser Satan ? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit-Saint n'aura jamais de pardon. Mais il est passible du jugement éternel. C'était parce qu'il disait « il a un esprit immonde ».
Lecture de l'étude. Quand Jésus et ses disciples rentrèrent à la maison, la foule les entoura aussitôt, au point qu'ils ne pouvaient même pas manger leur pain. Ayant entendu tout ce qui avait eu lieu, les proches de Jésus survinrent avec l'intention de se saisir de lui, le disant hors de sens. Voilà l'appréciation que faisait le cœur naturel en voyant le travail que la grâce de Dieu opérait par le moyen du fidèle et divin serviteur. Une vie de dévouement et de service dans la dépendance de Dieu passe pour folie, et l'homme y mettrait fin s'il le pouvait. C'est bien ce que voulaient faire les parents du Seigneur. Quel abîme se trouve entre les pensées des hommes et celles de Dieu. Chez les scribes descendus de Jérusalem, il y a plus encore. Ils ne peuvent nier la puissance par laquelle Jésus chassait les démons, mais ils l'attribuent au chef des démons. Jésus leur montre la folie d'une telle assertion en leur disant « comment Satan peut-il chasser Satan ? Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, ni une maison non plus. Si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. » Jésus était ici-bas pour délivrer l'homme du pouvoir du diable. Pour le faire, il avait dû entrer dans sa maison et le lier. C'est ce qui eut lieu à la tentation dans le désert, où Satan, vaincu par l'obéissance du Seigneur, s'était retiré pour le laisser accomplir librement son œuvre de délivrance en faveur des hommes. La puissance par laquelle Jésus chassait les démons était donc celle par laquelle leur chef était vaincu. À la croix, le pouvoir du diable sur la mort lui a été ôté en ce qui concerne le croyant. Par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, verset 14. Bientôt, dit l'apôtre Paul, le Dieu de paix brisera Satan sous vos pieds, Romains 16, verset 20. La chose se réalisera lors de la délivrance complète des rachetés. Dans le millénium, Satan, lié, ne pourra pas nuire aux hommes. Enfin, pour l'état éternel, il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre préparé pour lui et ses anges, où se trouveront, hélas, ceux qui auront préféré écouter les mensonges de l'ennemi plutôt que la vérité de Dieu qui leur offrait le salut. Cette accusation des scribes produisit de très graves conséquences. Jésus proclame que les péchés et les blasphèmes seront pardonnés aux hommes, mais que quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Mais il est passible du jugement éternel. C'était parce qu'il disait « il a un esprit immonde ». Jésus chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit, en sorte que dire que cette puissance était celle du diable, c'était blasphémer contre le Saint-Esprit. Les Juifs, comme nation, se sont placés sous les conséquences d'un tel péché, en rejetant le témoignage que le Saint-Esprit a rendu à Christ depuis la Pentecôte. Aussi, il n'y a pas eu de pardon pour le peuple. Dieu le mit de côté et le dispersa parmi les nations. La vraie famille de Jésus, versets 31 à 35.
Lecture de la parole. Ses frères et sa mère donc viennent et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler, et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères là dehors te cherchent. » Et il leur répondit, disant, « Qui est ma mère, ou qui sont mes frères ?» Et regardant tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »
Lecture de l'étude. Tout ce qui venait de se passer témoignait hautement qu'il n'y avait pas de relation possible entre Dieu et l'homme selon la chair, quoique Dieu l'eût cultivé sans loi et sous la loi, et que l'épreuve se termina par la présentation de Christ en grâce. La mère et les frères de Jésus le font appeler, mais lui se sert de cette circonstance pour déclarer devant tous qu'il ne reconnaît aucune relation entre lui et l'homme en Adam, ni avec sa mère et ses frères, qui représente le peuple juif dont il est issu quant à son humanité. D'autres liens se formeront par l'action de la parole. Désormais, sa mère et ses frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceci implique la nouvelle naissance. On ne peut faire la volonté de Dieu qu'en possédant la nature divine, car, dans la chair, c'est impossible. Dans cet état, l'homme ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut pas. Quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. L'Esprit de Dieu se sert de ces paroles pour nous montrer que c'est par des actions que l'on peut être reconnu enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire que l'on croit, car ce qui distingue un croyant d'un non-croyant, c'est le témoignage qu'il rend, témoignage qui consiste à obéir à la parole de Dieu, puisque Dieu nous exprime par elle sa volonté. Dieu veut des fruits. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2, verset 26. Or, comme Dieu a donné aux croyants une vie qui peut produire des fruits, il est naturel qu'il en attende. Que ce qui nous caractérise toujours mieux, ce soit l'obéissance à la volonté de Dieu pendant le peu de temps que nous sommes laissés ici-bas. Le Seigneur Jésus lui-même est notre modèle. En considérant sa vie de serviteur parfait, d'homme obéissant, dévoué, nous pourrons, jeunes ou vieux croyants, l'imiter et être agréables à Dieu. Alors, on nous reconnaîtra comme ceux que le Seigneur n'a pas honte d'appeler ses frères, ses sœurs et sa mère.